Vous écoutez, on lit pour vous.
Les 400 000 photos du renommé studio Notman, fondé à Montréal, sont reconnues par l'UNESCO. Un texte de Mathieu Robert Sauvé, paru le 15 mai 2025 dans le Journal de Montréal. L'UNESCO a reconnu les archives photographiques Notman comme un élément de la mémoire du monde universel dans sa plus récente réunion d'avril 2025. C'est un grand honneur pour cette collection extraordinaire d'un entrepreneur visionnaire qui a documenté l'histoire du Canada à une époque où le pays était en pleine expansion, commente au journal Anne Eschapas, présidente du musée McCord Stewart, qui conserve les 400 000 photographies, 200 000 négatifs et autres artefacts depuis son acquisition par l'Université McGill en 1955. Arrivé d'Irlande en 1856, William Notman travaille d'abord dans une mercerie avant de se lancer à son compte en vertu d'un prêt consenti par son employeur. Il ouvre un studio à Montréal et se consacre à la photo, un art naissant à l'époque, résume Madame Eschapas. Premier photographe canadien à obtenir une réputation internationale, Notman devient le photographe officiel de la Reine Victoria. Mais son talent ne se limitera pas à la bourgeoisie. Il signera d'extraordinaires photos de travailleurs du chemin de fer canadien et de communautés autochtones, notamment. Le studio Notman, qui comptera jusqu'à 50 employés, obtiendra des contrats à l'extérieur du Québec en raison de sa notoriété. Des universités comme Harvard et Yale feront appel à ses services pour immortaliser des membres de leur communauté universitaire. D'autres contrats viendront de l'Ontario et des Maritimes, reprend Madame Eschapas. Les portraits, individuels et en groupe, seront la marque de commerce du studio Notman, qui engageait des artistes chargés de créer des décors réalistes. Les photos de l'hiver canadien qui seront publiées dans les grandes revues comme The London Illustrated News sont souvent des mises en scène intérieures. 70 000 photos numérisées. Le musée compte actuellement 70 000 photos numérisées en haute définition et libres de droit qui s'étendent sur 8 décennies. Il y a de véritables trésors encore à découvrir dans la collection, reprend la présidente du musée. En plus des portraits, qui constituent 7 images sur 10, le catalogue compte de nombreux paysages et certaines photos sont des témoins inestimables de la vie à Montréal entre la fin du 19e siècle et la moitié du siècle suivant. De vaillants travailleurs qui coupent à la scie des blocs de glace en plein hiver sur le Saint-Laurent pour alimenter les glacières des Montréalais jusqu'au printemps suivant ont été immortalisés, par exemple, par le studio. On a aussi, grâce aux photographes montréalais, des images du pont Victoria en construction. D'une longueur de près de 3 km et reposant sur 24 piliers, cette prouesse technologique a mobilisé 3000 travailleurs. Elle était considérée à l'époque comme la 8e merveille du monde. C'était les 400 000 photos du renommé studio Notman, fondé à Montréal, sont reconnues par l'UNESCO, un texte de Mathieu Robert Sauvé, paru le 15 mai 2025, dans le Journal de Montréal.
Trump ramène le Québec à ses problèmes, un texte d'Éric Desrosiers paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir. La guerre commerciale de Donald Trump rend plus urgent encore des problèmes qui hantaient déjà le Québec avant. Le Québec et ses entreprises n'avaient pas besoin du président américain et de ses tarifs pour savoir qu'ils étaient économiquement trop dépendants des États-Unis et que ce serait une bonne idée d'essayer de profiter des accords de libre-échange aussi conclus par le Canada avec l'Union européenne et les pays membres du partenariat transpacifique pour élargir leurs horizons commerciaux, dit Mia Homsi. On avait déjà, à Investissement Québec, toute une équipe qui travaillait au quotidien auprès des entreprises qui voulaient justement faire cela, a expliqué sa vice-présidente à la stratégie, à la main-d'œuvre et au développement durable à l'occasion du congrès annuel de l'Association des économistes québécois, ASDEQ, qui s'est tenu à Gatineau le 5 mai 2025. Variable selon les secteurs et parfois même selon les entreprises, cette éventuelle diversification du commerce ne sera pas facile, a-t-elle noté. Ce n'est pas pour demain matin. Les marchés sont différents, les règles sont différentes, tout est différent. Les entreprises nous parlent de stratégies qui devraient s'étendre sur 3 à 5 ans. Ce ne sera pas plus simple pour les compagnies qui voudraient remplacer une partie du commerce avec les États-Unis par plus d'échanges interprovinciaux. Tout est organisé sur l'axe nord-sud, les chaînes de valeur, nos routes, nos réseaux de transport d'énergie. Aussi, la solution envisagée par plusieurs est tout bonnement de déménager une partie de leur production aux États-Unis. Mais en attendant, la situation est tellement confuse et la politique commerciale de Donald Trump tellement changeante que la plupart des entreprises préfèrent simplement tout mettre sur la glace et se trouver des stratégies intermédiaires pour amortir le choc. Entre les tarifs et l'incertitude, le pire pour les entreprises est vraiment l'incertitude, a noté Mia Homsi. Productivité, immigration, environnement. La diversification du commerce n'est pas le seul problème qui occupait les entreprises québécoises et canadiennes avant que ne survienne Donald Trump, mais que le président a rendu plus urgent. L'un de ceux-ci est la croissance chétive de leur productivité, a souligné Norma Kozaya, économiste en chef du Conseil du patronat du Québec. Pour aider à corriger la situation, elles devront réapprendre les vertus de l'investissement dans les moyens et les technologies de production, de l'innovation et de la formation de la main-d'œuvre. Parlant de main-d'œuvre, le Québec continuera d'être confronté à une pénurie de travailleurs ces prochaines années, a-t-on rappelé au congrès de l'ASDEQ. Pour y faire face, il devra encore une fois améliorer sa productivité, c'est-à-dire trouver le moyen de produire plus de richesses par heure travaillée. Mais il aura également besoin de travailleurs venus d'ailleurs. Le nombre de jeunes travailleurs nés au Québec qui entrent dans le marché du travail étant inférieur à celui des Québécois qui partent à la retraite. Le débat public sur la question migratoire était déjà trop simpliste, a observé Emna Braham, PDG de l'Institut du Québec. Mais depuis que les gouvernements se sont mis à faire du yo-yo avec les niveaux d'immigration permanente et temporaire et que l'on doit composer avec différentes vagues de demandeurs d'asile, on est rendu complètement à côté de la plaque. Quelle que soit la façon de prendre le problème, on arrive toujours à la conclusion que les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre immigrante, ont fait notamment valoir Denis Roy de l'Union des producteurs agricoles et Simon Gaudreau de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui représente nombre de PME. Plus de clarté, s'il vous plaît. C'est peut-être vrai à court terme, a observé Pierre-Carl Michaud, professeur à HEC Montréal, mais à plus long terme, les entreprises pourraient apprendre à s'adapter à la rareté de main-d'œuvre en fonctionnant autrement ou plus efficacement. Mais pour ce faire, il faut une situation claire et un avenir prévisible, ce à quoi Ottawa et Québec ne contribuent absolument pas en entretenant le flou et en changeant constamment de politique en la matière. Dans un contexte où le gouvernement fédéral a fortement révisé à la baisse ses cibles d'accueil de nouveaux arrivants et où celles du Québec se font attendre, la chasse aux immigrants irréguliers lancée au sud de la frontière leur commande aujourd'hui de se donner de toute urgence des plans de contingence, a prévenu l'ancien ministre québécois des Finances, Raymond Bachand. Je ne dis pas que ça va arriver, mais qu'est-ce qu'on fait si, demain, il se présente 1,5 million de personnes à notre frontière? Le Québec pourrait choisir d'en accueillir au moins quelques dizaines de milliers, a-t-il fait valoir, en pensant notamment à tous ces migrants haïtiens francophones qui seront peut-être poussés par les États-Unis vers la sortie. On peut-tu au moins penser à des règles, des cibles et des mécanismes d'accueil qui pourraient s'appliquer si la situation se présente? Et puis, on ne peut pas parler des grands défis auxquels était et restera confronté le Québec sans évoquer les bouleversements climatiques, a rappelé Mia Homsi. La question est peut-être moins à la mode ces temps-ci, mais qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, il y aura des impacts importants sur toutes les facettes de la vie, et ça va nous coûter des sous. Je reste de ceux qui pensent qu'il vaudrait mieux que ces efforts aillent à des mesures de réduction des émissions de GES et de mitigation qu'à seulement payer les pots cassés. C'était « Trump ramène le Québec à ses problèmes », un texte d'Éric Desrosiers paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir.
Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, où en sommes-nous? Un texte de Nadir André paru le 31 mars 2025 dans Espaces autochtones. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, a été adoptée le 13 septembre 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ONU, par un vote majoritaire de 143 voix pour et 4 voix contre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. L'élaboration de la DNUDPA avait nécessité des décennies de travaux, de négociations, de discussions multiples et de compromis avant son aboutissement. Cette déclaration, non contraignante et ne produisant pas d'effet juridique, contient 46 articles. Ceux-ci énumèrent une série de droits collectifs et individuels particuliers à certains groupes pouvant avoir besoin de mesures spéciales que les États s'engagent à protéger et à respecter. Elles s'appliquent à travers le monde, partout où l'on retrouve des peuples autochtones. En 2010, devant une pression internationale, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont fini par adopter la DNUDPA. Isolé, le gouvernement Harper l'adoptera finalement quelques mois plus tard en mentionnant qu'il s'agissait seulement d'un document dont le Canada pouvait s'inspirer puisque les droits autochtones étaient déjà protégés par la Constitution canadienne. Il faudra attendre l'année 2016 pour que le Canada, sous le gouvernement Trudeau, adopte pleinement la déclaration. Les droits protégés. Les droits reconnus dans la DNUDPA ne sont pas nouveaux. La plupart sont reconnus par l'ensemble des personnes dans les nombreux traités et conventions des droits de la personne en vigueur à l'ONU depuis sa création. On ne fait que les préciser et les adapter à la réalité des peuples autochtones. On retrouve le droit des autochtones à l'autodétermination, de se gouverner et s'administrer eux-mêmes, de maintenir leurs institutions, de recevoir la protection de l'État contre la violence, les actes de génocide et l'assimilation. La déclaration aborde également le droit de ne pas se faire déposséder de leur territoire et des ressources qui s'y trouvent et de forcer les déplacements des populations autochtones. L'article 28 de la DNUDPA prévoit des compensations et restitutions des terres ayant été confisquées. Mais c'est l'article 32 qui soulève le plus de controverses aux yeux de certains États, dont le Canada. Le deuxième paragraphe prévoit notamment l'obligation des États de consulter les Autochtones et d'obtenir leur consentement libre et éclairé au sujet de tout projet ayant des incidences sur leurs terres et ressources. Lorsqu'on prend connaissance des dispositions de cette déclaration, on comprend mieux pourquoi le Canada a initialement refusé de la ratifier. Je rappelle néanmoins que la déclaration ne produit pas d'effet juridique en soi et est non contraignante pour les États. La mise en œuvre au Canada. Le Parlement canadien a adopté la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, LDNUDPA, le 21 juin 2021. Le but de cette loi est d'assurer la mise en œuvre de la déclaration à l'intérieur du cadre juridique canadien. La loi prévoit également la mise en place d'un plan d'action afin de réaliser les objectifs de la déclaration dans le contexte canadien. Un plan d'action semble avoir été adopté et se retrouve sur le site du ministère de la Justice fédérale. Le site indique que le plan d'action est publié depuis le mois de mars 2023, mais on ignore s'il a été approuvé et s'il est mis en œuvre et par qui. Un autre défi, lorsqu'il est question d'intégrer des conventions internationales au Canada, c'est que le pays est une fédération formée de 10 provinces et 3 territoires et chacun possède des compétences qui lui sont propres. La loi fédérale sur la déclaration est limitée aux lois de compétences fédérales. La LDNUDPA n'a donc aucune incidence sur plusieurs aspects qui affectent les droits autochtones, notamment les terres et les ressources naturelles, qui sont pour la plupart de compétences provinciales et territoriales. Jusqu'à présent, seule la Colombie-Britannique a adopté une loi portant sur la DNUDPA. Cette loi, adoptée en novembre 2019, avant même la loi fédérale, prévoit de mandater le gouvernement afin de s'assurer que les lois provinciales soient conformes aux principes et objectifs de la DNUDPA. La loi de la Colombie-Britannique stipule également qu'un plan de travail doit être élaboré en consultation avec les Autochtones. Finalement, il est intéressant de constater que la loi provinciale autorise le gouvernement à négocier des ententes avec les nations autochtones permettant la prise de décisions communes sur des enjeux reliés aux terres et aux ressources naturelles. Preuve que la Colombie-Britannique prend de l'avance en ce qui concerne la mise en œuvre de la déclaration, la ville de Vancouver a adopté son propre plan d'action 2024-2028. La Commission de vérité et réconciliation. Toute cette démarche a certainement été influencée par les appels à l'action 43 et 44 de la Commission de vérité et réconciliation, présidée par Feu Murray Sinclair. Je rappelle que ce rapport a été publié en juin 2015. L'appel 43 demande aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux d'adopter et de mettre en œuvre la déclaration. L'appel 44 demande au gouvernement fédéral de développer un plan d'action national, des stratégies et autres mesures concrètes visant à réaliser les objectifs de la DNUDPA. Après 10 ans d'appel, on peut dire qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que la déclaration soit pleinement intégrée au Canada. C'était « Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, où en sommes-nous? » Un texte de Nadir André, paru le 31 mars 2025 dans Espaces autochtones.
Michel Audette déplore l'inaction d'Ottawa. Un texte de Mylène Crête, paru le 4 juin 2024 dans La Presse. Ottawa. 5 ans après la conclusion de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ENFFADA, l'ex-commissaire Michel Audette ne cache pas sa déception. Le rapport contenait 231 appels à la justice, mais peu ont été réellement appliqués. Celle qui est aujourd'hui sénatrice voudrait voir pour les victimes une mobilisation aussi importante que les efforts déployés pour contrer les vols de voitures. Nous l'avons jointe alors qu'elle était à Vancouver. Le rapport de l'ENFFADA a été remis au gouvernement le 3 juin 2019. Quel constat faites-vous 5 ans plus tard? Je suis à Vancouver, où j'ai rencontré des groupes sur la crise du logement et celle des opioïdes. c'est difficile de démontrer que, humainement, ça a eu un impact. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a une crise et ça explose. Avant l'enquête, il y avait déjà des initiatives, pas assez, c'est sûr. Et après l'enquête, la première fois que j'ai vu le plan d'action du gouvernement, c'est comme si on avait juste ajouté les appels à la justice à des initiatives déjà existantes. Ça, pour moi, ça ne passait pas. On n'a pas fait ça pour rien. On vous demande de faire le virage. Quand vous avez des mesures existantes, que vous voulez les bonifier ou les reconduire, faites un stop en incluant les familles, en incluant les experts, qui ont peut-être un angle qu'il n'y a pas dans ce qui existe. Ce n'est pas clair que ça a été fait. Il y a aussi un objectif, qui est de mettre des mécanismes de reddition de comptes. Je ne sens pas que c'est là, mais pas du tout, même en 2024. Et puis, on met beaucoup d'énergie sur ce que le fédéral a fait, mais c'est une enquête qui a aussi été ordonnée par les provinces et territoires. Et eux, je ne les entends pas ou je ne les vois pas. Donc, tant qu'on n'aura pas de mécanisme de reddition de comptes national et régionaux, on va s'essouffler et on ne sentira pas qu'il y a un réel avancement ou un changement. Il y a une voie fédérale avec 83 appels à la justice qui sont spécifiquement pour le gouvernement fédéral. Le reste se répartit dans les provinces et territoires, et il y en a 21 en plus pour le gouvernement du Québec. Combien d'appels à l'action peut-on cocher sur l'ensemble des recommandations qui avaient été faites? Vos collègues de CBC avaient fait un exercice il y a un an où il y avait deux appels qui avaient vraiment été cochés. J'ai posé la question à quelqu'un qui était impliqué au gouvernement fédéral et je lui ai dit « C'est quoi ça? » La personne m'a expliqué que CBC n'avait pas totalement tort. Mes deux bras sont tombés. J'adore le rapport récent de Jennifer Moore Rattray, qui a été mandatée par le gouvernement fédéral. Elle a analysé la mise en œuvre de l'appel à la justice 1,7 de l'ENFFADA, soit la création d'un ombudsman des droits de la personne. Elle dit « Arrêtez de nous consulter. On vous a donné nos réponses. Arrêtez de nous interpeller. On vous les a donné nos recommandations. » Je me suis dit « Enfin, il y a quelqu'un qui le dit haut et fort au sein de l'appareil gouvernemental. » Je sens quand même une pointe de déception dans vos réponses. C'est sûr que je suis encore insatisfaite. On dit « Nous, on a fait plus que l'autre gouvernement, celui de Stephen Harper. » Moi, ce n'est pas ça que je veux entendre. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que les femmes autochtones et leurs filles soient protégées? On vous a donné un projet de société. Vous faites quoi? Ça augmente au lieu de diminuer. Si c'était leur fille, comme j'ai dit au ministre de la Justice en comité, toute la mobilisation qu'on fait autour des voitures volées, un sommet, le financement, des amendements au code criminel, des projets de loi, je comprends. Mais dans le cas des femmes et des filles autochtones, on parle de perte de vies humaines. Je ne sens pas qu'il y a la même mobilisation avec du financement, des amendements législatifs, etc. Ça touche aussi le crime organisé, la disparition de nombreuses femmes et filles autochtones, pour une famille qui a perdu quelqu'un. Quand tu mobilises beaucoup de ressources autour de guerres à l'extérieur, puis que tu mobilises beaucoup de ressources pour des vols d'auto, alors qu'on parle depuis plus de 50 ans d'une perte d'êtres humains parce qu'un système les a abandonnés, c'est sûr qu'on réagit. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher l'autre, mais démontre-moi que tu as le même intérêt pour l'être humain. Le NFFADA n'a-t-elle pas réussi à faire changer les mentalités d'une certaine façon? Par exemple, on a vu que le financement a finalement été alloué pour chercher les restes humains des femmes autochtones qui auraient été abandonnées dans un dépotoir au Manitoba. Merci. Ça, c'est tellement vrai.
Je dois rencontrer l'Association canadienne des chefs de police à Saskatoon. Ils vont nous parler des bonnes pratiques et des choses qui ont été difficiles pour eux depuis le dépôt du rapport. Pour moi, c'est historique. C'est cette association-là qui ne voulait rien savoir d'une enquête nationale. On avait finalement signé une entente de collaboration. Là, 5 ans plus tard, ils vont nous présenter ce qu'ils ont fait depuis le dépôt du rapport. Donc, vous considérez que le NFFADA a réussi à faire changer les mentalités? Oui, dans les universités et dans les cours, on le voit. Dans les mouvements sociaux, on le voit. Dans les municipalités comme à Vancouver, où il y a un comité pour le suivi des appels à la justice. Donc, on voit à certains endroits qu'on ne peut pas prétendre que ça n'a pas été fait. L'éducation populaire et la mobilisation, ça, c'est de la guérison. Craignez-vous que le NFFADA tombe dans l'oubli si les conservateurs forment le gouvernement après les prochaines élections? Ma crainte est là. Je l'ai dit à des gens que j'aime beaucoup et qui sont membres de ce parti-là. Moi, votre chef me fait peur. Je ne l'ai jamais rencontré, mais la façon dont il a commencé sa campagne, ça m'a fait peur. Je ne lâcherai pas non plus avec eux autres au Sénat et je leur dis « Les questions que je pose aujourd'hui, je vais vous les poser à vous aussi. » Dépendamment des réponses, des priorités, ou de la mobilisation. Je vais toujours marteler avec amour ou avec fermeté, mais je ne lâcherai pas le morceau. On ne lâchera pas le morceau. Le mouvement va continuer. Notre voix va être importante et elle est déjà importante maintenant. L'histoire jusqu'ici. 8 décembre 2015. En poste depuis quelques mois, le gouvernement Trudeau annonce la mise sur pied de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ENFFADA. 3 août 2016, Michel Audette devient l'une des 5 commissaires choisies par le gouvernement. 3 juin 2019, le rapport de l'ENFFADA conclut que les Autochtones, en particulier les femmes, sont victimes d'un génocide. 3 juin 2024. 5 ans plus tard, le gouvernement Trudeau avance qu'il travaille sur 160 des 231 appels à la justice de l'ENFFADA. C'était « Michel Audette déplore l'inaction d'Ottawa », un texte de Mylène Crête paru le 4 juin 2024 dans la presse.